avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah, c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, il est 17h30, bienvenue dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. Au programme, comme chaque mercredi, deux invités. On reçoit tout d'abord Mathieu Boccoté, sociologue, essayiste, éditorialiste sur CNews et au Figaro, pour son tout nouveau livre Le pessimisme joyeux, un livre d'entretien avec Laurent Dandrieux paru chez Fayard. Pour le résumer, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Mathieu Boccoté sans jamais oser le demander. À 18h30, nous recevrons David Bisson, maître de conférence à l'ICES, pour son livre « Politique de Pasolini, l'insurrection des âmes » paru aux éditions du Rouge et Noir. 50 ans après la mort de Pasolini, il nous propose de retrouver le vrai Pasolini, c'est-à-dire celui qui échappe à toutes les récupérations idéologiques. Je vous rappelle également, chers auditeurs, que vous pouvez évidemment participer à l'émission et poser vos questions à nos invités. Et enfin, dernier message important et non des moindres, l'Incorrect vous attend chez votre marchand de journaux. Voilà, le tout nouveau numéro de l'Incorrect avec Curtis Yarvin, le théoricien, le penseur des néo-réactionnaires, ce courant américain qui grappille du pouvoir en 10 ans, même pas, ils sont sortis des internets, des forums pour arriver jusqu'à la Maison Blanche où ils chuchutent aux oreilles des puissants américains. Donc si vous voulez tout connaître sur ce Curtis Yarvin, ce qu'il propose, ces théories étranges, parfois flippantes, parfois scandaleuses, mais stimulantes en tout cas, vous retrouverez tout dedans. Rémi Carlu, peut-être un petit mot dessus, parce que c'est vous qui l'avez interrogé, ce Curtis Yarvin.
Oui, on est ravis de l'avoir à l'Incorrect, puisque tout le monde en parle. Aujourd'hui, si vous allez dans une librairie, vous verrez que le nombre de livres sur le technofascisme pullule. On nous fait tous croire que c'est l'homme, effectivement, qui contrôle la présidence américaine. Et donc, on a décidé de lui permettre de répondre à nos questions. Moi, je pense que c'est un intellectuel qui est effectivement effrayant par certains aspects, mais très stimulant par d'autres. Notamment avec son... c'est un ingénieur informatique, donc, au départ, et qui... a jeté un regard neuf et frais sur la politique. Et toute son idée, si vous voulez, c'est de nous sortir un petit peu de nos mythologies par ces fameuses pilules rouges, comme il parle, donc en référence au film Matrix. Et donc il y a chez lui une critique de la démocratie qui me paraît intéressante pour ceux qui ne sont pas démocrates et pour ceux aussi qui sont démocrates et qui voudraient améliorer le régime démocratique. Et puis un système politique très très curieux, la défense d'une monarchie avec l'imaginaire de la tech et de l'économie contemporaine, donc c'est quelqu'un qui ne rentre pas du tout dans les catégories françaises, mais ça le rend d'autant plus stimulant à mon avis.
Donc vous l'aurez compris, vous allez chez votre marchand de journaux, vous demandez l'Incorrect s'il n'est pas disponible ou s'il est caché, parce que parfois certains le cachent volontairement. Sinon vous pouvez également commander sur le site de l'Incorrect, www.lincorrect.org. Mathieu Boccoté, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un plaisir.
Alors je sais pas s'il faut qu'on vous représente, parce qu'on vous retrouve tous les soirs chez Christine Kelly sur CNews à 19h pétante, de 19h à 20h dans Face à l'Info, et tous les samedis soirs, où j'ai le plaisir d'être avec vous, dans Face à Mathieu Boccoté, puis également le dimanche sur Europe 1 et CNews, la grande interview, puis pour nos amis québécois, ils peuvent également vous écouter dans vos émissions du Québec, parce que Mathieu dort jamais, la journée il travaille pour la France, l'après-midi, le soir, pour le Québec. Et donc en plus vous écrivez des livres. Donc là, on vous reçoit, pourquoi? Parce que vous sortez un livre d'entretien passionnant avec Laurent Dandrieux, et Laurent Dandrieux a réussi à vous faire parler de beaucoup de choses, Le pessimiste joyeux, voilà, il est là, comme ça vous le voyez, paru chez Fayard. Alors, on va essayer de comprendre comment on peut être à la fois lucide sur le déclin et joyeux, comment on peut regarder le monde en face sans illusion, sans l'anesthésie du progressisme, et trouver dans cet héritage quelque chose qui vaut la peine encore d'être et défendu, et transmis, et aimé, et puis comment on peut admirer et Raymond Aron et Chuck Norris. Et surtout, nous allons savoir qui vous êtes vraiment. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on a une tradition.
Bien sûr.
Celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Mathieu Boccoté, le pessimiste joyeux au réveil un lundi matin, ça ressemble à quoi concrètement?
Alors, c'est terriblement concret. C'est-à-dire, je me réveille et comme tous les jours depuis ma naissance, je me réveille. En fait, depuis que j'ai l'âge de manger par moi-même, je prends. Alors, je vais le dire à la comme Français de France, du pain, des tartines de pain grillé avec du beurre de cacahuète. C'est-à-dire, en bon québécois, je prends des toasts au beurre de peanut. Et donc, je commence ça et c'est le rituel de base. Le reste est secondaire dans la journée si je n'ai pas d'abord passé par cette étape. Ensuite, j'écris bien évidemment les éditoriaux, les textes nécessaires du jour et ensuite, je pars à la conquête du monde.
Ça rend pessimiste et joyeux en même temps, je comprends. Si Bruce Willis devait à nouveau sauver le monde, ce serait de quoi ?
De Bercy. C'est la période des impôts quand même en ce moment, donc concentrons-nous sur l'essentiel, la défiscalisation intégrale de nos vies, la mise à bas de la kleptocratie.
Imaginons Bruce Willis débarquer en navette dans Bercy pour forer pour déposer une mine nucléaire. Ça peut être assez drôle. Question optimiste. Vous êtes condamné au bannissement sur Saint-Pierre et Miquelon. Pour propophobe, vous avez le droit d'emporter avec vous un livre, un film et un humain.
J'ai pensé. Alors d'abord, pour le livre, c'est le Comte de Monte Cristo, pour penser à mon évasion. Ensuite, pour le film, c'est les vallées d'Alcatraz, pour une raison toute simple, c'est parce qu'il s'est sauvé d'Alcatraz à ce moment-là, donc je fais le nez, c'est l'être humain, c'est Clint Eastwood qui dans le film a réussi à se sauver.
98 ans, je suis pas sûr qu'il recommence.
Bah moi, ce que je sais, dans le film, il a réussi, mais j'aurais pu dire aussi Sean Connery, parce que dans The Rock, il est parvenu aussi à se sauver d'Alcatraz. Or, je voudrais me sauver de Saint-Pierre et Miquelon pour repartir à la conquête du monde, comme je l'avais dit.
Vous remarquerez qu'il laisse sa femme maquée.
Mais pas du tout.
Ah si, un peu quand même. Peut-être qu'elle est nulle en évasion.
Mais non, pas du tout, parce que je vais la retrouver ensuite.
Ah, d'accord. Ah oui, c'est d'accord. C'est l'espoir de ce bougre mentor.
Non, mais si je l'amène avec moi, on est enfermé là-bas. Si j'y ai avec Clint ou Jean, je peux retourner ensuite.
Bonne réponse. Question pessimiste cette fois. Récidiviste, vous êtes condamné à mort. Mais vous avez le droit à un dernier repas. C'est quoi le menu ?
Alors, le point de départ, c'est qu'à partir de là, je ne dois plus tenir compte de mon poids. Donc, je n'ai plus à tenir compte du fait que je vais engraisser. Je n'ai pas à tenir compte du fait que mon médecin va me dire que franchement, je devrais un peu me contrôler. Donc, voilà mon plan. Ça commence quand même avec du fromage un peu avant le repas, mais il y en aura aussi après. Ensuite, il y a comme entrée. Il y a différentes options. Mais croustillant de chèvre, avec peut-être un peu des tomates séchées.
Confites.
Voilà, ça c'est très bien. Ensuite, une immense pièce de viande, avec un gratin dauphinois à côté, bien évidemment, et peut-être une deuxième, parce que franchement, je meurs le lendemain. Hein. Ensuite, le fromage, en bonne proportion, tous les fromages bleus disponibles à 5 km à la ronde. Ensuite, comme dessert, des glaces marron glacé, avec un peu de cognac quand même, ou encore une part de gâteau au chocolat, tout simplement. Et ensuite, il faut le digestif. Et évidemment, à travers tout ça, il faut quand même plusieurs bouteilles de vin. Parce que de toute façon, le lendemain, on me flingue.
Ou on vous noie, parce qu'avec ce poids-là, pas besoin d'une chaîne pour vous faire tomber au fond de la mer.
Évidemment, et bien, ce qui est terrible, c'est qu'on finalement, on va se dire, finalement, ne le tuons pas. Il va falloir que je reperde ce poids-là, ce qui est une autre manière de me condamner.
Quel est l'intellectuel vivant qui vous apprend encore des choses ?
Je vous surprendrai pas, mais je dirais Alain Finkielkraut, assurément. Qui, dans chacun de ses livres, nous éduque non seulement sur le plan conceptuel, mais éduque notre sensibilité.
Quel est l'intellectuel mort qui, plus vous le lisez, plus vous le trouvez vraiment nul ?
Marcuse, probablement. Marcuse, qui est beaucoup plus influent qu'on le pense, faut pas l'oublier. Et est absolument, il a marqué profondément les esprits. C'est une pensée assez nulle pour ne pas dire sotte, mais il a hypnotisé une époque.
Jean-François Revel ou Raymond Aron ?
Le style de Revel, la pensée de Aron.
Qu'y a-t-il de pire ? Un Anglais d'extrême centre ou un Français d'extrême gauche ?
Un Anglais d'extrême gauche.
C'était pas la question.
Un Anglais d'extrême centre alors.
Quel est le plus gros mensonge d'État ? Les Anglais au Stade de France ou Kevin et Matteo pendant les émeutes de Naël ?
J'avais l'impression que c'était le même mensonge avec la même. Qui trouvait sa même source chez la même personne.
Ah oui, c'est vrai. Ministre de l'Intérieur qui, Inch'Allah, je le cite, va peut-être être candidat à la présidentielle. Gérald Darmanin. Vous êtes McFly dans Retour vers le futur. À quelle époque souhaitez-vous être projeté ?
La veille de la bataille des plaines d'Abraham en 1759 pour expliquer à Montcalm comment ne pas se faire battre par Wolfe et faire en sorte que les Anglais ne s'emparent pas de Québec et de l'ordre l'Amérique demeure française. Évidemment.
Je me disais que je ne connaissais pas cette période de l'histoire française. Mais oui, c'est pour ça.
Oui, oui, exactement. C'est l'histoire de l'Amérique française. Vous l'avez oublié comme tous les Français.
Et on a oublié le Québec. Merci Mathieu. Maintenant qu'on se connaît un peu plus, et ben on va rentrer dans votre livre et là on va faire encore plus connaissance. Le pessimiste joyeux, donc un titre en effet qui vous scie à merveille et que vous devez à votre père Serge Côté. Alors je vous propose qu'on commence par le début, puisque votre livre et votre pensée d'ailleurs sont fondées globalement sur un mot, à savoir la gratitude. D'où vient votre famille ?
Alors, au Québec, mon père vient de la petite bourgeoisie culturelle, enfin, la petite bourgeoisie montréalaise. Ma mère, du vieux fond du Québec paysan, rural. Les deux parents, bien évidemment, si on remonte à plusieurs générations auparavant, bah, de France, comme l'immense majorité des Québécois qui ont des origines françaises, et en fait, nous étions français avant de devenir Canadiens, puis habitants, puis Canadiens français, puis Québécois aujourd'hui. Donc, le Québec est une société qui, à cause de son histoire, qui est une histoire de société dominée, n'avait pas de grande bourgeoisie, n'avait pas de véritables élites à la française. Donc, c'est une société assez égalitaire. Donc, mon père faisait partie d'un milieu assez cultivé, assez urbain. Ma mère, d'un milieu enraciné profondément. Et les deux se sont trouvés en 1973 dans un restaurant.
C'est pour ça, dans un restaurant. Alors, quel est l'enfant Mathieu Bocoté, c'est qui ? Quelle est votre enfance ? Vous êtes turbulent, vous restez sur votre siège haute et votre bavoir et vous pleurez tant que vous n'avez rien dans votre assiette.
Les deux ne sont pas contradictoires. Mais... donc que je sache, pour les souvenirs que j'en ai, parce qu'on avait une maison, donc on avait le sous-sol, on avait... le rez-de-chaussée et l'étage, et j'organisais l'ensemble de la maison à la manière d'un champ de bataille pour mes G.I. Joe, ou les petits soldats de plomb, on dirait en France. Donc j'avais mes soldats, donc je transformais la maison. Donc obsession pour tout ce qui touchait à la guerre, d'une manière ou de l'autre, le conflit, ça me passionnait. Puis ensuite, j'ai trouvé le moyen de transformer ça peu à peu en lecture sur l'encyclopédie des armes, ensuite pour passion pour Chuck Norris. Et un jour, tout ça, pour d'étonnantes raisons, a abouti dans un engagement intellectuel et politique. Mais le jeune enfant que j'étais s'imaginait un mélange de démiurge et de général qui organisait une guerre à l'intérieur de la maison au grand désespoir de ma mère.
Est-ce que vous vous rappelez le premier livre que vous avez lu ?
Le premier livre auquel j'ai accordé une importance, c'est « Pourquoi je suis séparatiste » de Marcel Chaput. Mais auparavant, les livres qui me touchaient, que je lisais le plus, mon père m'achetait des livres sur l'histoire du 20e siècle, l'histoire des grandes guerres, et ainsi de suite. Et il m'avait très jeune abonné à un truc qui s'appelait « L'encyclopédie des armes », qui racontait l'histoire du 20e siècle à travers les armes du 20e siècle. Donc, ce sont les premières lectures qui ont laissé une empreinte en moi. Mais vous pouvez ajouter à ça la série des Bob Moran, les Tom Clancy, les Frederick Forsyth. Donc, tout un imaginaire qui ne m'a pas déserté.
Rémi Carlu.
Et votre passion pour les idées, elle arrivait à quel moment et par quel livre ?
D'aussi loin que je me souvienne, elle m'avait dit. Dès lors que je quitte le niveau de l'enfance et l'organisation des guerres sur trois étages, ça m'a toujours passionné. La porte d'entrée, c'est assurément la question nationale québécoise. Mon père à la maison était une immense bibliothèque. J'admirais mon père qui aimait les idées, donc j'avais les idées moi aussi par effet d'imitation. Et les premières polémiques qui m'ont intéressé, c'était la question nationale québécoise, c'était le clivage gauche-droite, ces questions m'ont rapidement passionné. Je me souviens, quelque part à 12 ou 13 ans, peut-être 14, quelque chose comme ça, j'étais hanté à l'idée que j'avais pas trouvé mon sujet de doctorat. C'était quand même prendre un peu d'avance. Et j'avais trouvé comme sujet, mon père avait trouvé que c'était pas mal. Quand on est jeune, on est un peu idiot. Donc je voulais comparer la Russie post-communiste et l'Allemagne post-première guerre mondiale. Et donc j'ai eu l'esprit tranquille pour plusieurs années. J'avais trouvé mon sujet de doctorat. Finalement, j'ai travaillé sur autre chose. Mais j'ai souvenir d'avoir trouvé une forme d'apaisement existentiel dans cette première réponse.
Et alors, votre père était professeur ?
Ouais.
À l'université ?
Alors, on appelle ça le cégep au Québec. Donc, le cégep, c'est un niveau entre le secondaire et l'université. Ça correspond au premier niveau, à la première année universitaire ailleurs dans le monde occidental. Et il était professeur d'histoire, donc d'histoire de la civilisation occidentale et histoire du Québec.
Ah oui, donc vous avez été bercé à l'histoire, bercé...
C'était le premier mode de connaissance du monde. C'est-à-dire, mon paternel considérait que l'histoire, bien davantage que la sociologie, il n'avait pas tort, éduquait les hommes à la complexité des circonstances, évitait de les enfermer dans un système. Il détestait, dans les livres de sociologie, le fait que les 150 premières pages étaient de la théorie pour justifier les 30 pages d'analyse qui allaient suivre avec des faits. Ça l'a toujours énervé au possible, avec raison. La philosophie me passionnait aussi, et c'est pour ça que j'ai fait mon premier passage en philo avant d'aller en sociaux. Et j'aurais probablement voulu le suivre en histoire, mais je n'avais pas la passion des archives.
Alors, qu'est-ce qui vous a formé intellectuellement, politiquement, philosophiquement ? Alors, je suppose évidemment un grand apport de votre père,
oui,
en tant que professeur, puis vous l'aviez dit vous-même, par mimétisme, vous repreniez, oui, également ses idées, mais ensuite, alors, au-delà des livres, des personnes que vous avez rencontrées, ou ça s'est passé vraiment par la lecture, par les... La politique,
la lecture, assurément, la vie politique aussi. J'étais militant très très jeune, ce qui fait que j'ai développé un rapport assez réaliste à la politique et même à la philosophie politique. Je faisais de la philo à l'Université de Montréal, et je m'exaspérais en philo-politique des constructeurs de systèmes désincarnés. C'est-à-dire, je me souviens, c'est-à-dire, je le raconte dans le livre, c'est une conversation, je pense que ça doit faire 3 ou 4 semaines que je suis en philo à l'Université de Montréal, puis on est 3 ou 4 jeunes hommes, on discute à la pause. Je précise tout de suite que le mot que j'ai utilisé, péquiste, ça veut dire membre du Parti québécois. Donc on parle quelques amis, puis l'un d'entre eux, je me souviens encore, ça dit « moi je suis kantien ». L'autre dit « moi je suis nietzschéen ». Le troisième de mémoire dit « moi, je suis hegelien », puis moi, je suis péquiste ». Donc, donc la politique m'a formé, premièrement, à avoir des attentes modérées envers le pouvoir, envers la société, des attentes modérées envers la bête humaine. Par ailleurs, m'a rappelé qu'il y a peu de sentiments aussi nobles que le combat en commun des camarades pour telle ou telle cause. La plupart de mes amitiés québécoises sont des amitiés qui ont pris forme d'une manière ou de l'autre dans l'engagement indépendantiste de mes jeunes années. D'autres amis se sont greffés à tout ça, évidemment, au fil des ans. Mais c'est la première expérience, c'est l'expérience vitale. Et même, je dirais même en France, l'amitié, pour moi, et la culture... L'amitié est la seule relation sociale authentiquement égalitaire. Et par ailleurs, c'est l'amitié sous le signe du combat commun est une amitié exaltante. Donc, et ajouter à ça les lectures, la découverte assez jeune de Raymond Aron, de Julien Freund, des auteurs qui m'imposent moins quelque chose qu'ils ne traduisent des intuitions. La découverte d'Alain Finkielkraut ensuite. Donc, tout ça va me conduire vers un chemin dont je n'ai jamais vraiment dévié.
Rémi Carlu.
Par rapport à aujourd'hui, quelle était votre pensée politique à l'époque? Sur quel point avez-vous beaucoup changé?
Sur le fond des choses, je pense à peu près avoir toujours pensé... La matrice, j'ai pas connu de grands moments de basculement en disant « j'étais cela, désormais je suis autre chose ». J'ai l'impression d'avoir à peu près toujours été dans la même ligne. Ensuite, la pensée se complexifie, se simplifie aussi, soit dit en passant. Quelquefois, dans la jeunesse, on aime les constructions théoriques absolument passionnantes qui nous donnent le sentiment de notre complexité, et on découvre finalement qu'on est tout simplement dans la production du brouillard mental. Donc, il y a des positions, entre guillemets, des sujets sur lesquels j'ai évolué, mais parce que je pense que les circonstances nous y obligeaient. Je suis un jeune Québécois de 1980. La géographie a ses droits, j'étais spontanément pro-américain. Je le demeure d'une certaine manière, mais je suis beaucoup plus sceptique aujourd'hui à l'endroit de l'Empire de notre temps, et je ne m'identifie plus comme on pouvait le faire trop spontanément. En tant que Québécois, je ne m'identifie plus immédiatement aux querelles et aux passions de l'Empire. Plus les années passent, plus je me sens, non pas hostile, mais quand même relativement étranger aux Américains, tout en sachant que je partage avec eux un continent.
Romaric Sangars.
Oui, Mathieu, côté en France, quand on devient conservateur au cours de sa jeunesse ou de ses années d'étudiant, on passe évidemment par un moment conflictuel avec le climat idéologique dans lequel on est éduqué, et par la télévision et par l'institution scolaire. Comment cela se passe-t-il au Québec? Est-ce qu'il y a un conflit? Est-ce qu'il y a une révélation? Ou est-ce que... quel est le cadre?
De la même manière, moi, pas dans la famille. Le père était assez conservateur. La famille était assez conservatrice. Mais à l'université, je me souviens très... Bon, j'ai toujours su que j'étais de droite. Globalement, j'ai pas souvenir d'avoir pensé que j'étais peut-être un homme de gauche. J'ai tout de suite compris que l'environnement intellectuel dominant au Québec était assez à gauche. J'ai cherché le bon terme en droite, conservatisme, droite. Selon les circonstances, un me semblait plus pertinent que l'autre. À l'université, je me souviens très bien, j'y entre en 1999 en philo, et là, la grande passion du moment, c'était par exemple John Rawls, un philosophe américain, et ça m'ennuyait profondément, cette espèce de contractualisme progressiste idéaliste. Je me tournais vers les philosophes du réalisme politique avec beaucoup d'intérêt. Mais je me rappelle même avant ça, quand j'étais au cégep, donc vers 16, 17, 18 ans, j'écrivais des textes dans un journal étudiant, que j'avais le titre de ma chronique, c'était « De l'œil droit ». Et je multipliais les papiers, puis je me souviens, je pense, vers 17-18 ans, un papier genre que mon Dieu, je n'avais pas pensé à ça depuis longtemps, dans la presse, au journal québécois, pour le droit de respirer à droite. Donc je nommais droite mon désir d'oxygène dans l'espace intellectuel, le progressisme québécois dominant, et puisque j'étais par ailleurs militant au Parti québécois, qui est un parti indépendantiste de coalition, mais où le sentiment, l'idéologie dominante était assez à gauche, se dire de droite était une manière de rappeler que l'indépendance n'appartenait pas à la gauche, n'appartenait pas aux progressistes, mais ça impliquait quand même une perpétuelle lutte. Et puis dans le cadre du parcours universitaire, sachant que dans l'université québécoise, comme en France, l'extrême droite commence au centre-gauche, eh bien ça m'a valu quelques soucis ensuite dans mon parcours.
Alors vous avez dit que vous étiez militant, mais alors militant au sein du parti, mais militant également dans une université. Et c'est quoi Mathieu Bocoté militant? C'est quelqu'un qui donne du coup point, qui colle, ou qui fait des grands discours sur les estrades et qui publie des textes ou des revues universitaires.
Alors,
des revues
dans l'université. La culture du coup de poing, heureusement, n'est pas dans la culture politique québécoise. Donc, ce que c'était, ben alors vous en France, on colle des affiches. Chez nous, on pose des pancartes. Donc, des pancartes électorales. Donc, combien de fois, mais l'élection est déclenchée le lendemain matin, ou donc alors, de 21h, de 20h à 4h, 5h du matin, on allait poser des pancartes un peu partout pour s'assurer de gagner la bataille des pancartes dans nos circonscriptions. J'étais très actif dans les instances du Parti québécois. J'étais très actif aussi à l'Université de Montréal et ailleurs avec j'animais le comité, la cellule, on disait la cellule du Parti québécois. Donc j'organisais conférences, je faisais passer des tracts à 7h du matin pour s'assurer de manquer personne qui rentre à l'université. Donc c'était, et par ailleurs, j'étais toujours l'intello de la bande. Donc quand il y avait un journal, le journal de l'aile jeunesse, le journal de... J'étais très impliqué chez les jeunes péquistes. Puis ensuite, assez rapidement, vers... j'ai mes polémiques militantes. Puis ensuite, quelque part autour de 23 ans, ou quelque chose comme ça, j'ai rejoint le cabinet du chef de l'opposition officielle comme conseiller et plume, qui était Bernard Landry, qui avait été au premier ministre auparavant, et donc, du Parti québécois toujours. Et nous sommes devenus amis. Donc on a une relation qui s'est développée ensuite sur plusieurs années. Lorsqu'il est mort en 2017, je ne me trompe pas, il avait demandé à ce que je sois le dernier à parler à ses funérailles, comme s'il me transmettait le flambeau de l'indépendance, ce qui m'avait touché.
Rémi Carlu.
Donc là, vous, la vie contemplative pure ne vous a jamais intéressé en tant que tel? C'était toujours destiné à un combat?
Ça vient ensemble. J'ai pas une vocation contemplative. Il m'arrive d'avoir quelquefois des aspirations, des velléités contemplatives. Je me retire du monde et je lis tranquillement à l'abri des combats de la cité. J'aime me faire croire, mais mes amis ne me croient pas quand je le dis, que si le Québec était déjà indépendant, devenu indépendant en 80 ou 95. Et puis si l'Occident n'était pas assiégé, submergé, j'aurais eu une vie tranquille d'universitaire, un peu comme Henry Jones dans Indiana Jones 3. Mais
pas si tranquille à la fin quand même.
Ben, ça c'est bien malgré lui. Donc la dimension, la vie universitaire, la vie intellectuelle m'a toujours passionné. Elle ne m'intéresse pas que dans sa dimension pratique, mais ma porte d'entrée dans cette vie, c'était... la vie intellectuelle au cœur de la cité. Ensuite, heureusement, l'ensemble de mes passions intellectuelles ne s'épuisent pas dans le combat politique, loin de là. Mais dans mon parcours, tout ça est un peu indissociable.
Donc c'est par sens du devoir que vous descendez dans l'arène, en somme.
Bah ça, c'est une version positive que je me raconte de moi-même. D'autres diraient que j'ai une forme de dimension mégalomane, que je me prends pour le roi du monde. Bon, mais non, dans mon esprit, dans le récit que je me fais de moi-même, c'est par devoir que je me mêle de la cité, parce que dans un monde autre, j'aurais eu une vie plus tranquille, vous dites contemplative, de professeur qui aurait eu, bon, je me connais, là, j'aurais eu une tribune hebdomadaire ou mensuelle quelque part. Mais bon, les circonstances en ont voulu autrement et on n'est pas maître intégralement de tout ce qu'on fait dans sa vie. Et elle nous conduit quelque part et on essaie de demeurer fidèle à sa vocation.
Et vous avez dit qu'il n'y a pas de culture du coup de poing au Québec. La violence en politique n'existe pas au Québec. Il n'y a pas d'affrontement. Il n'y a pas comme en France.
Il n'y a pas l'équivalent du quartier latin. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments de violence politique dans les années 70. Il y a... En 2012, il y a eu une crise étudiante majeure où les gens se sont un peu tapés sur la gueule, mais globalement, ça fait pas partie de la culture politique québécoise, qui est une culture assez tranquille, assez pragmatique, assez prosaïque. L'idée de voir des rangées de jeunes se taper dessus, se prenant chacun pour la frange avancée de la révolution, de la contre-révolution, a quelque chose de terriblement folklorique pour nous.
Alors, quels sont les... vous savez, il y a souvent, quand on fait de la politique ou quand on fait du débat d'idées, on a souvent des maîtres qui traînent toujours sur un coin de table ou sur la table de chevet, on replonge dedans en disant qu'est-ce qu'il en aurait pensé ou qu'est-ce qu'il dirait. Quels sont vos maîtres à vous qui vous éclairent encore aujourd'hui?
Alors, ben ça vous en reprendra pas. Aron, assurément. Revel, Freund, François Furet, Russell Kirk, assurément. William Buckley, Irving Kristol. Donc, des auteurs des deux côtés.
J'espère que vous avez une grande table de nuit, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs.
Vous en parlerez à mon épouse qui pourrait vous dire que c'est... La table de nuit est occupée. c'est un problème. Mais en ce moment, cela dit, ce qu'il y a sur ma table de nuit, parce que là, je suis dans un moment trotsky en ce moment. Donc, j'ai la biographie en trois tombes. Je perds Zach Deutscher. J'ai le Ma vie de Trotsky. J'ai une série de longues trucs que j'ai soit déjà lu ou que j'ai pas encore lu. Donc, normalement, les deux dernières heures avant de me coucher, je me plonge ardemment en Trotsky.
Et au-delà des personnalités d'extrême gauche ou de gauche que vous lisez à travers des biographies ou à travers leur autobiographie, est-ce qu'il y a des intellectuels de gauche que vous lisez avec plaisir ou même avec admiration?
Honnêtement, j'ai lu Foucault avec passion, mais une passion rageuse, parce que j'avais l'impression d'être devant un génie luciférien. C'est-à-dire qu'il est d'une intelligence époustouflante. Il, il voit tout dans son système, mais une fois qu'il a traversé le réel, il ne reste que des cendres. Mais c'est une intelligence géniale et déréglée. Je lis, mais parce qu'il m'exaspère, Habermas, par exemple. Habermas, je l'ai lu toute ma vie, en le détestant toute ma vie, mais en ne pouvant pas m'empêcher de continuer à faire de la boxe mentale avec lui, tellement il incarnait tout ce que je trouvais insensé. J'ai lu, quoi qu'on en dise, Marx, c'est pas une grande passion, mais je trouve que c'est quand même une espèce de passage obligé dans la formation intellectuelle. Et puisque ma thèse de doctorat était consacrée quand même beaucoup à l'histoire des mutations de la gauche des années 50 à aujourd'hui, je n'ai pas eu de déplaisir à lire tous ces grands penseurs de gauche, même si j'y étais profondément étranger, même si ce n'était pas ma manière de voir le monde. Mais que ce soit chez les plus anciens, que ce soit bon Marcuse, on en parlait tantôt, que ce soit Poulanzas, Castoriadis, les plus récents, Giddens, Ulrich Beck, tout ça, j'aime lire le camp d'en face.
Alors c'est amusant, pour l'instant, on nous a cité que des politologues ou des intellectuels ou des philosophes. Pourtant, il y a quand même deux écrivains qui reviennent assez régulièrement, soit dans vos chroniques, soit qu'elles soient écrites, ou qu'elles soient à la télé ou en radio, et même lorsque vous parlez en échange plus privé, sont plutôt des romanciers, ouais. Raspail et Tolkien.
Ah oui, bien sûr. Ben, je pourrais ajouter à ce compte-là, je pourrais ajouter aussi Miloche, Orwell et tout ça, ou Kessler. Alors Raspail, parce que il y a chez lui, c'est le génie de la désolation. C'est-à-dire, il pose une question qui est presque une question éthique. Que faire une fois que le monde auquel on tient s'est effondré? Une question, c'est ça. Et là, donc, c'est une éthique, non pas de la consolation, mais c'est une éthique du « que reste-t-il une fois que l'essentiel est tombé ?» Bon. Et c'est une plume qui est à la fois tonique et désespérée. C'est assez fascinant. Une forme de virilité désespérée. Dans le cas de Tolkien, c'est autre chose. C'est le plus beau des récits. Voilà, je parle des hobbits qui sont tranquilles chez eux, qu'on leur fiche la paix, foutez-nous la paix. Et là, l'histoire les sollicite. Donc, ils doivent sortir de chez eux, rencontrer d'autres gens, faire une sainte alliance, aller vaincre le méchant, détruire le mal, rentrer chez eux, ripailler à nouveau. Je trouve que ça correspond quand même à nos formes d'éthique. Et par ailleurs, dans tout ça, il y a la figure du roi qui revient, qui unit les hommes, qui pourraient se désunir, mais qui finiront par se désunir encore une fois. Il y a chez Tolkien, une forme de... C'est le mythe, l'imaginaire mythique de droite, c'est-à-dire c'est cette idée, l'union circonstancielle des hommes pour accomplir une grande tâche, la beauté de l'héroïsme, le désir du retour chez soi. J'ai toujours aimé, j'ai lu Tolkien beaucoup. Ensuite, quand j'ai vu les films, ben là, je les ai regardés. Ensuite, il m'arrive de le relire tout simplement pour retrouver le texte d'origine.
Alors, on parle beaucoup donc, de la France à travers, pas Tolkien, mais dommage qu'il ne soit pas français, mais Raspail, puis Aron, puis Foucault également. Mais alors, quel a été votre premier contact avec la France? Donc, vous avez été élevé politiquement dans l'indépendance,
ouais,
par votre père. Et donc, au niveau de la France, est-ce que la France a toujours été présente
une évidence
dès
absolue.
Le début chez vous?
Ouais. Je le dis dans le livre, à 15 ans, mon paternel m'offre les mémoires d'Aron. J'ai souvenir, je suis enfant, je vois dans la bibliothèque de la maison Bertrand Jouvenel, Raymond Ruyer, Léon Blois, Balzac. Tout son univers était là. Donc la France était une évidence pour nous, comme elle l'est pour tant et tant de Québécois qui ont la... Si c'est pas la fidélité aux origines, à tout le moins le sens de leurs origines. Et cette certitude absolue que quand on veut se projeter dans le monde... C'est parce qu'il y a la France, le français est une langue universelle, ce n'est pas simplement la langue vaincue d'une petite tribu oubliée en Amérique. Ce qui fait que la langue était partout présente. Mon père, par ailleurs, adorait le cinéma français. Ça vient ensemble, le vin français, le fromage français, la cuisine française, la pensée française, la philosophie française. Donc, tout ça allait de soi, sans pour autant qu'on se prenne pour des Français.
Mmh. Rémi Carlu.
Et votre premier voyage en France?
Ah oui, je raconte dans le livre, mais là, j'ai l'air un peu idiot. c'est en 2004, je crois. Donc, c'est un colloque pour les entretiens Jacques Cartier. Donc, c'est à Lyon. Et on me dit d'ailleurs, c'est son premier voyage en France, prends deux semaines ou deux semaines et demie, tu auras l'occasion de visiter, voyager Lyon, tout ça, autour de Lyon. Mais j'apporte dans mes bagages les origines de la France contemporaine d'Hippolyte Thème. Mm-hmm. Et donc je fais mon colloque là au début, puis ensuite je m'enferme dans ma chambre pour lire les origines de la France contemporaine, et j'en sors à peu près pas pendant 2 semaines pour lire ça au complet. Donc à un moment donné, je me lève la tête, je dis ah oui, il faudrait que je retourne chez moi, franchement. Donc pendant 2 semaines, je ne lis que Thème, complètement étranger à la ville de Lyon, que je n'ai redécouvert que des années plus tard, parce que je pense encore à la pauvre femme de chambre qui a dû entrer dans cette chambre ensuite en disant mais ça sent, ça, je suppose qu'elle a dit ça sent le mort, parce que je m'y étais enfermé, c'était terrible. Donc je commandais bouffer, ainsi de suite, pour pouvoir lire tranquillement Hippolyte Taine sans qu'on me dérange. Donc c'est comme si c'était le premier d'Andrieux qui m'interviewe, dit il voit une forme d'acte manqué. Oui. Mais non, c'est vraiment que Taine est passionnant.
Vous êtes bien dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, et nous conversons avec Mathieu Boccoté parce qu'il publie un livre d'entretien passionnant avec Laurent d'Andrieux, Le pessimiste joyeux. Vous commencez à comprendre pourquoi à la fois il est pessimiste et pourquoi il est joyeux. Le temps d'un petit message et on continue cette conversation.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Et oui, il est 18h, vous êtes dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, et nous recevons donc Mathieu Boccoté qui publie son livre d'entretien avec notre confrère et ami Laurent d'Andrieux, Le pessimiste joyeux. Alors, nous parlions de votre premier séjour réussi en France, coincé dans une chambre d'hôtel à lire Taine, bon, pourquoi pas. Alors, en France, il y a un sujet de débat. Alors, comme vous le découvrez, chers amis, dans le prochain numéro de l'Incorrect, il y a deux sujets de débat très importants, la date de la mort du rock'n'roll et la mort de la France. Et puis un troisième débat qui arrive en France, c'est qui a la paternité de Mathieu Boccoté. Tout le monde se réclame de Mathieu Boccoté. On a le Figaro, on a des intellectuels en disant « Oh, c'est moi le premier, c'est moi le premier ». Comment êtes-vous arrivé dans la vie médiatique et intellectuelle en France ?
Mon Dieu, étape par étape. 2007, non, le premier, mis à part le premier voyage en 2004, ben oui, à Lyon, où je suis invité à écrire à partir de ce moment-là dans une revue Controverse qui avait été lancée par Shmuel Trigano, dans laquelle j'avais publié quelques papiers. En 2007, je suis de passage ici pour un colloque, encore une fois, c'est dans le cadre de la présidentielle, un colloque franco-québécois à la Sorbonne. Et un ami d'amis dit « Alain Finkielkraut, tu devrais inviter Boccoté pour une émission, ce serait pas mal. » J'ai 26 ans et il m'invite, donc avec un autre Québécois d'ailleurs, Louis Balthazar. Donc j'ai fait mon premier passage à réplique, donc j'ai 26 ans, je crois que c'est la veille d'ailleurs de l'élection présidentielle de 2007. Donc il y a ça, donc il y a la filière Finky. Ce passage par Finky, donc l'année qui suit ou l'autre d'après, je rencontre Jean Sévilla à Montréal, qui parle de mon premier livre dans le Figaro Magazine, je sais pas, quelques mois plus tard, la dénationalisation tranquille. Brice Couturier aussi, de passage au Québec en 2009, m'invite à son émission Du grain à moudre à l'époque, que je referai en 2008, que je la referai en 2009 de passage à Paris. Donc, et à un moment donné, bon, je vous évite les détails, mais en 2013 ou 14, ouais, 2014, le Figaro Vox vient d'être lancé, quelque chose comme ça. Puis c'est l'époque de Facebook qui occupe la place dans nos vies. Donc, je sais pas pourquoi Guillaume Perrault s'ajoute ou j'ajoute Guillaume Perrault sur Facebook. Je reçois un message 5 minutes plus tard en me disant « Cher Mathieu Boccoté, je me souviens très bien de votre passage chez Alain Finkielkraut en 2007. » Là, il me résume tout, il connaît tout du Québec, c'est absolument étonnant.
Et Guillaume Perrault qui était le patron du Figaro Vox.
Exactement. Et qui donc m'invite à faire un premier papier. Très bien. Là, on perd les élections en 2014 au Québec. Ça me brise le cœur, Centurion. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis à ma compagne, je pars 2 semaines à Paris pour me changer les idées. Et je rencontre à ce moment-là donc Guillaume Perrault la première fois, Vincent Trémollet qui m'associe au Figaro Vox, donc je commence à faire un papier régulièrement. Entre-temps, par ailleurs, j'avais rencontré aussi en 2014 Laurent d'Andrieux au Québec qui deviendra un ami. Donc toutes ces sources, en fait, ces origines sont nombreuses. Comme dirait l'autre, j'ai des origines multiples, mais qui globalement appartiennent tous à peu près au même univers. Et oui, je pourrais nommer d'autres gens, mais je dois beaucoup à beaucoup de gens.
Alors, vous êtes sociologue. Reconnaissons que le département ou le titre n'a pas super bonne presse en France. Et... Alors, comment on devient sociologue? Alors, pour quelle raison?
Alors, il y a des raisons circonstancielles et fondamentales. La raison fondamentale, c'est que j'avais commencé en philo. J'ai commencé ma maîtrise en philo, vous diriez en français de France, le master. Et là, ce que devenait la philo m'énervait profondément. J'avais pas envie de jouer à la philosophie spéculative. Donc, la question du Québec m'habitait depuis toujours, et là j'avais une idée de ce que je voulais faire à la maîtrise, donc je passe en socio avec un professeur exceptionnel, Jacques Beauchemin, un très très grand professeur, un grand sociologue au Québec, qui me permet de mener les travaux. Donc je fais, pour moi, la philo, la socio, c'est l'occasion de faire à la fois de la philo, de la socio et de l'histoire, donc c'est un choix circonstanciel lié à un maître de qualité qui a accepté d'accueillir mes travaux. Par ailleurs, la philo normative commençait vraiment à me taper sur les nerfs. Et la socio, et on l'oublie, la socio, dans son élan inaugural, au 20e, fin 19e, début 20e, je pense pas à Durkheim ici, Weber, Pareto, Mosca, Roberto Michels, la socio n'est pas une discipline de professeur de morale. Elle cherche à étudier les mécanismes de la reproduction sociale, l'imaginaire collectif, les principes de la légitimité, le circuit par lequel se forment et se décomposent les élites. Donc, il y a un moment absolument passionnant en sociologie au début du 20e, qui va jusqu'aux années 30, 40, tout ça. Ça se décompense. Ensuite, il y aura des sociologues qui prendront le relais. Aaron, James Burnham à sa manière, Jules Monroe. Mais la sociologie sera confisquée à partir des années 50-60 par un progressisme marxisant absolument insupportable. Mais il est possible encore, d'une certaine manière, de faire de la sociologie autrement, si on le souhaite. Le prix à payer, c'est d'accepter de ne pas faire carrière dans un département de sociologie ensuite.
Alors justement, vous qui observez, parce que c'est le principe aussi d'un sociologue, ce qui se passe devant vous, alors pas avec les lunettes progressistes, vous ne regardez pas le pays tel que vous voudriez qu'il soit, comme Delphine Ernotte, mais tel qu'il est, même si on a tous envie et des désirs sur la France et puis vous, le Québec. Mais qu'est-ce que vous observez de cette génération qui nous succède? On appartient à peu près à la même génération, avec Romaric également, Rémi un peu plus jeune. Quelle différence faites-vous entre notre génération et celle qui arrive, et surtout dans le camp du camp national ou de la droite en général?
Alors, nous avons intériorisé, pour le meilleur et pour le pire, beaucoup plus d'interdits. C'est-à-dire, nous appartenons à un espace intellectuel et mental où nous avons comme interlocuteurs des progressistes que nous devons, sinon convaincre, à tout le moins nous devons nous installer dans le débat comme leur interlocuteur légitime. Donc, donc on trouve normal, psychologiquement, parce qu'on a été formé comme ça, d'être le camp conservateur minoritaire dans un espace public mainstream progressiste, et ce qu'on veut, c'est intégrer à cette conversation publique, ce qui implique par ailleurs des arguments plus sophistiqués, plus raffinés, pour le meilleur et pour le pire. Quelquefois, ça peut devenir tout simplement inintelligible. La jeune génération arrive, le contexte de production de l'espace public n'est plus le même, le système de légitimité n'est plus le même, et la jeune génération arrive de manière beaucoup plus décomplexée, entre guillemets, mais ne passe plus par ailleurs par l'étape, quoi qu'on en dise, de la formation intellectuelle longue, le rapport aux livres, la fréquentation des colloques, la publication le rituel du premier ouvrage, bien que ça existe encore. Donc on a une jeune génération infiniment plus désinhibée et qui ne rencontre plus son adversaire. Donc le bon côté, c'est qu'elle a une parole libre. On est quelquefois étonné, on les entend parler, on se dit, ah, franchement, ils se permettent de tout dire. Puis secrètement, on n'est pas en désaccord. Mais au même moment, on se dit, il n'est pas trop mal quelquefois d'avoir cette petite étape d'inhibition mentale pour être capable de proposer un argument qui soit autre chose que l'intellectualisation d'un ressenti. Donc, ils sont probablement plus libres, plus désespérés aussi. Je pense que c'est une autre chose qu'on voit. Vous, moi, Romaric, Rémi, on est quand même né dans un monde où le peuple historique français ou québécois était clairement majoritaire chez lui. On n'a pas fait l'expérience, ou à tout le moins, si c'est le cas, j'en serais surpris, de la mise en minorité identitaire que connaissent aujourd'hui les jeunes générations qui ont compris qu'elles étaient désormais en minorité démographique, probablement dans leur pays, ou à tout le moins, certainement dans plusieurs quartiers. Je note par ailleurs que dans ma génération, bon, c'est plus mon cas que le vôtre, mais pas tant que ça non plus, on est quand même plus libéraux. Je ne vais pas vous insulter, mais plus libéraux sur les mœurs, c'est-à-dire on comprend la complexité de l'âme humaine, ce que j'appelle poliment les vies complexes et dédoublées. La jeune génération a une forme de rigorisme moral qui l'honore probablement, mais qui peut me terrifier quelquefois. Vous savez, j'ai la fille d'un ami qui, une fois dans un dîner, nous explique, on est trois ou quatre, elle nous explique, avec nos propos un peu libéraux, elle nous explique que l'ami est catholique et sa fille l'est encore plus, qu'on va finalement tous finir en enfer avec ce qu'on dit. C'est quand même assez étonnant, cette promesse d'enfer, faite au terme d'un dîner, par ailleurs fort agréable, elle continuait de nous parler au même moment. Vous la connaissez peut-être.
Non, je sais pas. Mais peut-être parce qu'elle voulait vous éviter l'enfer et qu'elle vous disait, bon, Mathieu, il faut peut-être faire 2-3 accommodements.
Oui, mais c'est à ce moment qu'on se dit que le patron au sommet nous comprend, connaît nos petites faiblesses, se montre fondamentalement tolérant et va nous pardonner ce petit biscuit en plus qu'on s'est permis, cette petite gourmandise, ce petit bout de fromage en plus.
De toute façon.
Moi j'ai senti dans la jeune génération, il suffit d'un bout de fromage en trop pour déjà passer beaucoup trop de temps purgatoire, si c'est pas l'enfer.
Mais on reviendra sur votre catholicisme, parce que c'est une partie aussi importante, et puis les gens ne connaissent peut-être un peu moins, mais qui est importante en tout cas dans votre parcours, dans votre vie. Mais vous ne pensez pas aussi que cette nouvelle génération a une radicalité, parce que déjà c'est dû à l'âge, on est plus radicaux quand on est jeune, et peut-être qu'aujourd'hui on est encore ado et 25 ans, alors qu'il y a 50 ans ou 70 ans ou un siècle, on était presque adulte à 15 ans, et peut-être que c'est simplement un retour de balancier.
Oui. Alors, mais la tentation puritaine que je vois quand même aujourd'hui, la volonté d'avoir une existence que je dirais en extrême conformité avec ses actes, donc l'incapacité d'avoir de comprendre qu'il y a inévitablement une faille dans le cœur humain, il y a inévitablement un écart entre la représentation sociale qu'on donne de soi et nos vérités intimes, la volonté d'avoir un cadre très très rigide. Dans l'exemple, je note ça, je dis pas ça pour faire je veux pas jouer au boomer, bien qu'au fond moi-même je sais que je suis le dernier boomer, mais c'est mon Pascal Brucknerisme, mais je vois, j'aime beaucoup Bruckner en passant, mais je vois cette jeune génération qui a une forme de désir d'absolu, mais moi je trouve l'absolu, faut placer ça quand même dans les bons sujets, c'est-à-dire par exemple le refus de l'impôt ou l'indépendance du Québec, mais un absolu des comportements quotidiens, le désir de ritualiser son existence exagérément, je confesse que c'est pas trop dans mon imaginaire, mais ça c'est un tout petit milieu que je connais. Ensuite, je pense que l'immense majorité vit aujourd'hui quand même, quand on quitte le milieu des jeunes intellectuels dans la droite nationale, l'immense majorité vit dans la déshérence, le nihilisme et une forme de désir de scarification physique et morale permanent, mais c'est pas notre environnement.
Romaric, qui s'engage.
Oui, vous parlez là-dedans, dans ce puritanisme, il y a aussi une nécessité de nouveaux absolus et un retour du religieux aussi. Oui. En Europe, qu'en est-il du Québec, qui est un pays qui a été fait un peu par les jésuites en grande partie, et il y a eu une grande... vous en parlez un peu d'ailleurs au début de votre livre, mais quel est ce rapport à la religion au Québec par rapport à l'Europe, où le rejet et la prééminence de l'Église a été aussi beaucoup plus tardive?
Alors, on pourrait dire dès les origines de la colonie, jusqu'à la conquête, l'Église a quand même joué un rôle central dans l'Église, dans la formation de l'identité québécoise. Elle jouera un rôle encore plus grand de 1840 à 1960. Donc, en 1940, il y a l'acte d'union, je vous résume, là, il y a une insurrection, encore une fois on perd, les Anglais nous massacrent. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, les Anglais nous font perdre notre existence politique, qui était le Bas-Canada à l'époque. La seule institution qui nous reste, c'est l'Église. Et l'Église va devenir, comme un peu pour les Irlandais ou les Polonais, l'Église-nation. L'Église va être absolument dominante, hégémonique, donc on lui doit immensément, on lui doit notre survie. Je pense que dans les 30 dernières années, avant sa chute, dans les années 60, donc 1930, 40, 50, 60, jusqu'au début des années 60, elle est devenue d'un cléricalisme étouffant. Mon père, qui n'avait pas d'anticatholicisme, ni primaire, ni secondaire, ni tertiaire, me racontait les dernières années de sa formation dans ce qu'on appelait le cours classique. Il y avait un côté, une forme de petit obscurantisme provincial qui pouvait être étouffant. Les Québécois, globalement, à partir des années 60, rejettent non seulement les excès du catholicisme, mais l'Église en tant que telle. Donc, globalement, je veux dire, on a voulu se débarrasser à la fois des Anglais et des curés. On a réussi à se débarrasser des curés. mais le Canada nous domine toujours. Cela dit, il y a eu donc cette période très anti-religieuse. Aujourd'hui, on assiste dans une partie de la jeune génération à une forme de tentation catholique qui revient. Et ce qui est drôle, c'est le traitement qui est fait au Québec de cette tentation catholique qui revient. Le système médiatique a tellement chassé la question religieuse de son imaginaire que récemment, quand il y avait des papiers au moment de Pâques autour de ça, comment expliquer le fait que des jeunes reviennent au catholicisme avec une perspicacité remarquable? C'est la faute aux réseaux sociaux. et c'est la faute à TikTok. Et là, on a envie de dire, vous savez que par ailleurs, l'homme est un animal religieux comme disait Eliade. Donc il va chercher à sacraliser quelque chose. Donc dès lors, il se peut que à la recherche de la foi, à la recherche du transcendant, à la recherche de sa propre identité, l'homme retrouve ce qui a été la religion de ses pères. Mais notre système médiatique et intellectuel ne sait pas quoi faire avec ça.
Petit message à nos auditeurs, et comme ça, chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission, en tout cas poser vos questions à nos invités par téléphone ou par courriel. Quel plaisir d'entendre Mathieu Bock-Côté sur les ondes de Radio Courtoisie, digne hérité de Pierre-Guy Parry, qui était lui aussi un pessimiste joyeux, à défaut d'être un optimiste anxieux. Continuons sur le catholicisme, cher Mathieu. Vous avez eu un gros pépin de santé en 2020, alors je précise que c'était avant que le Covid arrive, donc ça n'a rien à voir avec les vaccins. Vous avez failli y passer. Deux conséquences. À la suite, vous êtes rétabli, mais deux conséquences. Une religieuse, une esthétique.
Oui.
Alors peut-être qu'il y a un lien, évidemment. La première, c'est que vous avez fait votre première communion, oui. Puis quelques semaines ou quelques mois après votre confirmation. Puis vous avez opéré un deuxième changement, cette fois-ci vestimentaire. Fini les chemises au col mou, les jeans. Maintenant, place au costume sur mesure, au gilet, au chapeau et aux cravates. Expliquez-nous un peu ce changement radical.
Alors, c'est compliqué. Alors, pour la religion, c'est... Depuis des années, je tournais autour de l'idée de faire ma première communion, ma confirmation. Mais puis les fois où je m'étais rapproché de l'Église pour le faire, les propos du prêtre m'avaient profondément exaspéré, donc je m'en étais éloigné. Je considérais que j'aimais mieux l'Église quand je l'aimais de loin. Janvier 2020, 3 janvier, cancer du rein. Donc là, ça nous oblige à nous poser quelques questions qu'on préférait ne pas se poser, qu'on préférait les reporter très tard dans sa vie. Et donc, entre l'opération, on m'enlève un rein, et la pathologie, un mois plus tard, on me dirait ce qu'il y en est. Je me dis quand même, bon, faut que je sache globalement, à quoi je crois en dernière instance, sachant que toute croyance est flottante, sachant que toute croyance vient avec un point d'interrogation. À quoi veux-je adhérer en dernière instance? Donc, je vais voir un prêtre, l'abbé Robert Gendreau à Montréal, et je lui explique globalement mon parcours par rapport à ça. Je dis que j'ai toujours tourné autour d'eux, on pense que peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et je lui dis, je préfère douter dans l'Église qu'hors de l'Église. Et il me dit, ça me convient très bien, le reste du chemin, on le fera ensemble. Donc, dans ce douter dans l'Église plutôt qu'hors de l'Église, j'ai fait ma première communion et ensuite ma confirmation. Puis ensuite, comme je me connais, j'ai des allers-retours de temps en temps. Donc de temps en temps, j'ai une réaction de païen à Rome qui voit arriver les premiers chrétiens. Puis de temps en temps, j'ai un attachement à la religion qui est néanmoins la mienne. De temps en temps, j'ai des moments de foi sans aucun doute. Ces moments sont formidables, et dès qu'on cherche à les conceptualiser, s'en emparer un peu, immédiatement ils se dissolvent, c'est insupportable. Donc ça c'est la dimension religieuse. Pour ce qui est du reste, alors c'est assez particulier, septembre 2020, je constate qu'à cause de la maladie, tout ça, j'avais perdu quand même beaucoup de poids. Plus rien ne me fait. La vie est toujours très pratique dans ses origines. Donc là, il faut que je me dise, c'est l'occasion de s'habiller correctement comme un adulte. Donc je vais chez un tailleur à Montréal. Puis finalement, acheter un costume ne suffit pas, pourquoi pas un deuxième. Et je commence à prendre un immense plaisir, finalement, à marquer ça. Ça devient presque un changement. Ça marque physiquement un changement dans l'existence. Le problème, évidemment, c'est qu'on perd du poids, mais qu'on le reprend. Puis on le repère et on le reprend. Et on le repère, on le reprend, on le reprend, on le reprend. Mais on le repère un peu quand même. Alors, dans cette séquence-là, pour le dire comme une de mes amies qui s'est moquée de moi en cette matière, elle a dit finalement, tu perds du poids, t'en reprends, mais tu préfères porter la pochette que manger toujours du quinoa. Et je trouve que c'est une excellente manière. Sachant qu'on doit se présenter à l'existence convenablement, sachant que je n'ai pas la vocation d'être une espèce de grand mince insupportable qui peut manger tout ce qu'il veut sans jamais engraisser, je hais ces gens, d'une certaine manière, une petite manière de résister à la décomposition générale, à l'affaissement des mœurs, à l'affaissement du bon sens, à l'affaissement esthétique, c'est quand même de s'habiller correctement en sortant de chez soi. Donc c'est une histoire toute simple.
Mais c'est devenu une vraie... disons que vous êtes plus fidèle au costume qu'au catholicisme, mais que c'est devenu peut-être même une dissidence, parce que vous parlez régulièrement avec Hugo Jacomet, que vous aviez reçu ici. On voit toute une nouvelle génération qui retrouve un sens dans... l'habit, dans le bel habit.
Mais vous avez tout à fait raison. La société s'effondre. Voudrais-je demain la réformer, que j'aurai un pouvoir assez limité. Mais ce que je sais, c'est que chacun d'entre nous avons une emprise au moins minimale sur nos vies. Dès lors qu'on pense que le beau doit être incarné, dès lors qu'on pense que l'élégance est une réponse quand même à l'affaissement généralisé de l'esthétique, dès lors qu'on pense qu'on se tient plus droit quand on porte un costume que lorsqu'on est en t-shirt un peu dégueulasse, eh bien, tout ça fait en sorte que ça structure un rapport au monde. Donc, évidemment, tout ça est absolument secondaire et vain, et pourtant, c'est une manière agréable d'habiter le monde dans sa légèreté.
Je vous propose, avant de revenir à la France, parce qu'il faudra qu'on parle des mœurs françaises que vous avez épousées, non pas que vous... Au Québec, il n'y a pas de mœurs françaises, mais il y a des cultures assez différentes, et notamment des structures autour du dîner, des banquets. Mais revenons un peu au Québec, parce que bon, vous l'avez dit, vous avez toujours été indépendantiste. Déjà, est-ce qu'indépendantiste, on est forcément conservateur contre indépendantiste? On peut être indépendantiste et progressiste.
Oh, oui, bien sûr, longtemps ça a même été majoritaire. Donc, mais en ces matières, moi, la question de l'indépendance transcende les autres. Donc je préfère un Québec indépendant pendant 50 ans de gauche qu'un Québec de droite dans la fédération pour 50 ans. On y aura toujours moyen d'en finir politiquement, démocratiquement avec le progressisme, mais quand on reste dans le Canada, on finit par se dissoudre comme peuple.
Alors, quel est l'enjeu aujourd'hui? Parce qu'il me semble qu'il y a des élections qui approchent et vous dites qu'il y a beaucoup de fortes, quoi, des chances plus importantes qu'avant que le Québec se devienne indépendant. Alors, quel est l'enjeu aujourd'hui? Et ensuite, si le Québec est indépendant, concrètement, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qui se passe?
Alors, si le Parti québécois l'emporte le 5 octobre prochain, il y aura normalement, dans les années qui vont suivre, un référendum sur l'indépendance. Pour que ce référendum fonctionne, et l'enjeu, c'est que c'est un peu le référendum de la dernière chance. Pour quelle raison? Parce que les changements démographiques que vous connaissez et que nous connaissons, les changements démographiques favorisent le Canada, favorisent le camp fédéraliste, favorisent le Parti libéral. L'appui à l'indépendance se trouve dans la majorité historique francophone. Cette majorité, en 1995, faisait 82% du Québec. Aujourd'hui, les chiffres sont entre 74-77%, bon, selon les structures d'âge. Mais globalement, c'est un peu notre dernière chance. Donc, il faut foncer. Je crois que les Québécois, dès lors qu'ils vont se retrouver devant une proposition indépendantiste assumée, décomplexée au pouvoir, ça va désinhiber aussi la question nationale. Ça va en obliger plusieurs qui s'étaient réfugiés mentalement. Donc, je ne veux pas entendre parler de ça, donc je vote non. Ah, OK, d'accord. Donc, de quoi parlez-vous exactement? Si on réussit l'indépendance, en fait, si on gagne le référendum, il faut assurer la reconnaissance du Québec, donc international. Ça, la France a un rôle immense à jouer là-dedans. L'indépendance du Québec, c'est par ailleurs, ça va confirmer pour tous, pour l'avenir du monde, premièrement, qu'un nouveau peuple et un nouveau pays est né en Amérique, que ce pays, dans ce pays, le français n'est pas une langue sur deux, c'est pas une langue optionnelle, c'est la langue fondatrice, c'est la culture fondatrice autour de laquelle nous nous rassemblons. Ça va assurer donc la pérennité de l'identité québécoise, ça va la déprovincialiser aussi. Parce que le drame du Québec dans le Canada, c'est qu'au niveau québécois, ça se vit sur le mode presque de la famille, de l'entre-soi, puis tout ce qui est régalien, important, la prétention universelle du lien politique se joue à Ottawa. Je pense que ça a toujours fait grand mal au Québec, cette idée que le Québec est l'entre-soi familial, mais les choses importantes, ça se gère ailleurs. Je pense que ce moment régalien québécois, ce moment, cette conquête de l'État, cette conquête de la souveraineté, va donner un véritable nouvel élan à l'identité québécoise, une forme de revitalisation assez remarquable. Donc pour tout ça, ensuite on verra, on n'est jamais certain de rien en politique, mais il ne me semble pas inimaginable qu'en octobre, il y ait un gouvernement indépendantiste, et dans les 3 ou 4 prochaines années, il y ait un référendum gagnant sur l'indépendance.
Romaric, regarde.
Mais ça me fait penser, cette perspective joyeuse, aux théories de Dominique de Roux, je ne sais pas si vous voyez, sur la troisième voie de l'international gaulliste, de la France qui aurait été la chef de file des petites nations, de l'authenticité culturelle, de la singularité culturelle contre les grands empires, qu'ils soient à l'époque soviétique ou américain. Aujourd'hui, ça serait encore autre chose. Est-ce que, dans ce cadre, par exemple, d'un Québec indépendant, on pourrait imaginer une résonance internationale, en fait, et une nouvelle manière, finalement, de s'inscrire à l'international?
Je suis assez modeste dans mes aspirations. Je pense qu'un nouvel État indépendant doit naître en Amérique dans une époque où l'État s'est fait absorber par la technostructure, dans une époque où l'État est ravagé par l'étatisme. Je vois très bien le monde dans lequel nous évoluons. Le Québec n'a pas vocation à refonder l'expérience du monde, refonder l'expérience du politique. Là où ça peut être intéressant, cela dit, c'est que ça rappelle le lien intime entre identité et citoyenneté, le lien intime entre identité et souveraineté. Ça rappelle le fait qu'il n'y a pas que les grands empires qui doivent marquer la marche du monde, qu'une petite nation, son droit d'autodétermination, de s'organiser par elle-même, que ce soit la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la Pologne, que ce soit tous ces petits peuples qui n'ont pas vocation impériale, mais qui veulent se gouverner eux-mêmes. Donc, de ce point de vue, la cause québécoise a une dimension universelle. Mais, je rassure, le Québec indépendant sera un État aussi décevant, humain, imparfait, médiocre, que toutes les sociétés humaines depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps, mais ça sera chez nous, et chez nous, on se gouvernera par nous-mêmes dans l'universelle déception humaine.
Nous avons des questions d'auditeurs. Première question, quelle est l'importance du journal Le Devoir de Montréal?
Alors, le journal Le Devoir, ça se veut le journal intellectuel au Québec, fondé par Henri Bourassa en 1910. C'était un grand journal. Aujourd'hui, c'est le bulletin paroissial de la gauche mondaine montréalaise. C'est une version moins intéressante de Libération.
D'autres questions. Dans les années 70, vos compatriotes chantaient « Les hommes vivront d'amour ». Que pensez-vous de cette chanson qui a enthousiasmé le public français ?
Alors, c'est Raymond Lévesque, « Quand les hommes vivront d'amour », mais je préfère de lui d'autres chansons, notamment « C'est le Québec qui est mon pays » ou encore « Dans la famille Chartrand ». Ah, je voulais chanter « Dans la famille Chartrand, de père en fils depuis très très longtemps, on a toujours le muscle solide, l'œil vif et puis une gauche rapide. Il paraîtrait que l'ancêtre Chartrand fendait du bois rien qu'en le regardant, mais pour se tenir en forme, il lui fallait... Ah, tous les matins, planter son anglais. Alors, je précise qu'en québécois, planter, ça veut pas dire avec un couteau, si je vais me péter la gueule. Donc, ça raconte le conflit des jeunes Canadiens français avec les Canadiens anglais à l'époque. Mais je la connais au complet, hein. Je peux vous la faire pendant très longtemps, mais je ne vous l'imposerai pas intégralement.
Et est-ce que c'est chanté avec le même accent que vous, un accent plus prononcé?
Alors, oui, je pense que Raymond Lévesque avait un accent plus canadien-français traditionnel.
Donc on écoutera la version de Mathieu Bock-Côté.
Mais oui, mais vous pouvez regarder la Reggie Chartrand, ça, c'est sur YouTube, vous allez la trouver, c'est quand même pas mal. Quand les hommes vivront d'amour, j'ai toujours trouvé ça un peu gnangnan, ça m'a toujours un peu tapé sur les nerfs. Je préfère les chansons de Félix Leclerc, de Claude Gauthier, de Gilles Vigneault, de Claude Léveillé à celle de Raymond Lévesque, qui par ailleurs a fait de très belles chansons, mais celle-là n'est pas ma préférée.
Alors revenons en France. Donc, vous êtes résident en France maintenant, ouais. Depuis quelques années. Mélenchon arrive au pouvoir, il prouvera que les OQTF peuvent être appliquées, parce qu'à mon avis, il vous enverra directement sur orbite là-bas. On vous renverra chez vous, en tout cas. Alors, il y a plein de points communs avec la France et le Québec, notamment la langue, mais il y a une divergence très importante, et c'est là qu'on voit qu'il y a une culture anglo-saxonne qui est encore importante au Québec, ce sont les dîners.
Ouais.
En France, on dit « viens dîner à la maison, on vient ». Au Québec, viens dîner à la maison, c'est par politesse et surtout on n'y va pas. Comment expliquer ça?
C'est que ça m'a frappé, vous racontez quelque chose, ça m'arrivait au Québec, effectivement, si on dit tu viendras souper à la maison. Je dis pas que ça arrive pas, je dis que c'est une formule de politesse. Bon, ça veut dire tu viendras souper à la maison dans le prochain siècle. et là, alors qu'en France, c'est très sérieux, si on dit viens dîner à la maison, ça veut dire quelque chose. Et quand je le constate, donc j'ai dû passer les premières fois où je vais aller en France, je prenais pas au sérieux les invitations. Je disais, qu'est-ce qu'il veut? Bien sûr, oui, bien sûr, à un moment donné, j'ai eu l'air d'un type plutôt mal poli. Et un jour, j'ai vu donc l'importance du dîner, mais qui est une tradition merveilleuse à la française, la capacité qu'on a de rassembler les hommes, les femmes dans des dîners, où la conversation est pétillante, vivante, où c'est un moment d'amitié véritable qui se vit, alors que les Québécois sont plus un peuple familial, en quelque sorte, pour le meilleur et pour le pire, hein, je boude pas les miens, mais il y a un art de l'amitié à la française qui se vit dans le dîner et qui me semble tout à fait remarquable. Et surtout, il y a une amitié propre à la française. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas au Québec, mais ce n'est pas le mode d'amitié dominant chez nous.
Une petite dernière question, cher Mathieu Bock-Côté, qu'est-ce que vous voyez encore en France ou à Paris qu'un Français ou un Parisien ne voit plus ?
Le caractère absolument merveilleux de la France. La France se vit sur le mode de la déception permanente, du sentiment de l'échec, du sentiment de la décomposition. Or, quoi qu'on en dise, quand on vient de l'extérieur, on voit d'abord en ce pays ce qu'il y a de merveilleux. Ensuite, on constate le dérèglement de l'organisation sociale, mais ça, c'est circonstanciel. Je pense que le peuple français lui-même est fondamentalement un peuple lumineux.
Merci Mathieu Bock-Côté, je vous rappelle donc votre dernier livre d'entretien publié avec notre ami Laurent Dondrieu, Le pessimiste joyeux. Vous avez eu un aperçu de ce que vous y trouverez. Il y a beaucoup plus de choses, évidemment. Donc, c'est chez Fayard, chers auditeurs, évidemment. Nous vous le conseillons. Vous allez chez votre libraire ou commandez-le sur les internets. Le temps d'un petit message et on se retrouve tout de suite après.